Mathilde Serrel, Martin Kénéen, Ping Pong.
Mathilde Monnier est donc avec nous. Vous dirigez le Centre National de Danse de Pantin depuis 2014. Vous êtes la première artiste à occuper ce poste. Et jusqu'au 1er juillet, c'est donc la deuxième édition de Camping, un de vos projets manifestes, rencontre artistique et chorégraphique internationale. Est-ce que vous décririez d'abord pour nous ce corps multiple et mouvant de campeurs que vous allez accueillir, ce corps occupant ?
Alors, ce corps, c'est plusieurs corps, oui. Puisqu'on accueille plus de 250 artistes venant du monde entier. Et bon, c'est plutôt, on va dire, c'est des artistes entre 20 et 50 ans. Allez, on va dire un panel quand même assez large. Pour certains, pour la première fois, ils viennent pour la première fois en France, pour la première fois à Paris. Donc, l'idée, c'est de créer un espace, je dirais pas neutre, mais un espace où on ne peut pas prévoir à l'avance ce qui va se passer. Voilà, c'est comme un grand laboratoire de recherche ou un espace de sérendipité. À un moment donné, voilà, on met tout le monde, les gens se rencontrent et puis il se passe des choses un peu impensées, insoupçonnées. Et c'est la chance pour eux aussi de frayer d'autres cultures, d'autres esthétiques, de rencontrer des danseurs et des artistes qu'ils ne pourraient jamais rencontrer. Donc c'est un moment d'envahissement institutionnel, je dis souvent.
Et vous qui êtes fasciné par ce que vous appelez, je crois, l'en commun, les choses qu'on met en commun à travers cette manifestation, puisque Mathilde vous lance sur cette question du corps, c'est l'idée de créer un corps polymorphe.
Oh, peut-être pas un seul, pas un corps, mais parce que je n'aime pas tellement cette idée de réunion.
Oui, on n'est pas à l'église, hein, vous avez été élevé dans cette tradition-là.
Non, moi je suis plutôt, au contraire, l'idée de tension, l'idée que les choses jaillissent, c'est quand même c'est plutôt des relations assez complexes, et puis il n'y a pas non plus d'idée communautariste, et surtout pas de la danse, parce que je pense que c'est toujours dangereux d'être comme ça, dans un éloignement, et de s'isoler dans un art. Donc au contraire, je pense que voilà, notre art est un art aussi en porosité avec le monde, voilà. Et en lien avec le monde.
C'est pas du tout un lieu étanche, hein. Vous l'avez conçu comme quelque chose qui va aussi recevoir ce qui se passe à l'extérieur. Ça peut aussi être des réponses au Brexit, pourquoi pas. C'est vrai, ce corps de la danse comme un vecteur d'écriture, vous voyez comment ?
Alors, est-ce que c'est un corps politique ? Parce que c'est un peu ça que vous dites. En tout cas, c'est un corps manifeste et... C'est un corps qui a un lien avec la ville, qui a un lien avec le social. C'est un corps qui n'est pas juste un corps sans parole, parce que je pense que la danse a beaucoup de choses à dire. Elle le dit en s'exposant, elle le dit en montrant, elle le dit en montrant des expressions du corps qui sont parfois complètement... qui vont contre les normes de la société, qui vont... et qui sont aussi une manière de prendre position dans le monde. Et je pense que voilà, c'est un art qui a aussi fait beaucoup bouger les lignes, peut-être d'une manière moins flagrante que le théâtre, mais en tout cas qui se positionne dans le monde.
Catherine Gell, il y a un autre artiste, on va revenir sur cette dénomination, qui, je crois, ne plaisait guère à Pierre Paulin, et un autre individu qui a fait bouger les lignes, mais les lignes du design, du désigne, comme on disait, de son temps. C'est donc Pierre Paulin, exposé actuellement au Centre Georges Pompidou jusqu'au 26 août, et qui est donc, bien sûr, d'importance dans votre carrière à la fois de critique, de commissaire d'exposition et de professeur intéressé à ces questions du design. Mathilde Serrel rappelait, puisqu'à Mathilde Monnier, on va essayer de ne pas se tromper ce soir.
Et il y a Mathilde Cadreau à la rédaction aussi.
Donc vous publiez avec Karl Navro ce Pierre Paulin petit précis illustré, coédité par TEP Publishing et France Culture, dans lequel on trouve beaucoup de matière. Mais on parlait du corps à l'instant avec la danseuse et chorégraphe Mathilde Monnier. Quand on s'intéresse à Paulin, il y a un imaginaire organique, un imaginaire du végétal. Pourtant, pour des objets industriels, en stretch, en mousse, en caoutchouc, il y a les champignons, les tulipes, les huîtres, la fameuse langue, le ruban. Quel rapport au corps, au mouvement, Pierre Paulin entretenait-il ?
En fait, ce qui m'intéressait en vous écoutant, Mathilde Monnier, donc, c'est justement qu'il y a une grande différence en fait entre le corps que regarde le designer, alors en général, et puis sans doute Pierre Paulin en particulier, puisque pour le coup, il va regarder des corps qui sont différents, mais qui doivent d'une certaine façon universaliser entre eux. C'est-à-dire que c'est pas le corps du différentiel, ça serait plutôt l'objet qui, étant universel, arrive à s'adapter à tous, en fait. Qui est aussi, voilà, c'est un peu une espèce d'inverse, comme ça, et de paradoxe, que je trouvais intéressant. Il y a une autre chose qui m'intéressait en vous écoutant, c'est la question de l'institution. En fait, le regard sur Paulin, à travers le fait effectivement de translater l'œuvre et de demander à quelqu'un comme Karl Navro, qui est designer graphique mais qui est aussi illustrateur, je ne sais pas s'il s'intitule artiste, ce sera une question.
Qui vous accompagne donc, ce soir et dans le projet de votre petit précis.
C'est justement un moment de regarder c'est quoi un individu sur lequel vous avez travaillé et qui effectivement est dans le moment de l'institutionnalisation. C'est-à-dire que Beaubourg, l'expo à Beaubourg, etc. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ressort? Qu'est-ce qu'on en dit et tout? Et donc effectivement, se dire tiens, on prend cette œuvre-là, on y garde une des formes de précision, parce qu'il y a cette côté précis, c'est mon machin prof qui veut être précise, mais il y a aussi quelque chose qui peut arriver avec l'œuvre de quelqu'un. Et donc ça, c'était quelque chose qui, évidemment, moi, m'intéressait.
La sérendipité dont parlait Mathilde Monnier?
Ouais, même si je trouve que c'est un terme complexe, mais, mais oui, pourquoi pas? Oui, disons-le, en tout cas, oui, bien sûr.
Karl Navro, puisque vous êtes là aussi à nos côtés entre Mathilde Monnier et Catherine Gell, disons un mot de votre trait et de l'interprétation que vous faites, puisqu'on parle de corps, puisqu'on va parler de gestes et de mouvements ce soir avec la danse et la réflexion autour de la danse de Mathilde Monnier. Voilà, quelle interprétation faites-vous dans ce petit précis illustré du mouvement de Pierre Paulin?
En fait, c'est pas, je me suis pas trop attaché au mouvement ou en particulier, mais surtout en fait à quelque chose d'assez juste les formes en fait, et comme une étude un peu anatomique en fait du fauteuil en fait, parce que chez Pierre Paulin, surtout ce qui m'a marqué c'est justement ces peaux en fait qui recouvrent une ossature, et j'ai une vision assez naïve en fait, disons, du projet, et c'est en regardant les images de Paulin, c'est juste encore une fois une espèce de fantasme formel, ça presque pour moi, l'individu en fait a été effacé en fait de l'étude. C'est que je vois plus le fauteuil comme un fauteuil, mais vraiment comme une chose à étudier et à comprendre. Même si d'ailleurs, je sais pas, peut-être qu'on y reviendra plus
vous
tard.
Vous disséquez Paulin. Alors les peaux en cuir de ses
exactement,
premiers fauteuils et les peaux
exactement,
en stretch de ses œuvres les plus célèbres.
Ouais. En fait, il y a aussi, mais ce qui est aussi assez étrange, c'est que j'ai commencé quand même par ces espaces en fait. J'ai pas commencé par ces fauteuils, parce que j'ai trouvé que la difficulté chez Paulin était ses fauteuils, mais qu'on rentrait assez aisément dans un espace dans lequel il pouvait y avoir un fauteuil en fait.
Et vous avez choisi des dessins rares aussi.
Non, en fait, c'est même pas des dessins rares.
Vous acceptez d'en décrire un pour nous?
Ben, en fait, déjà, ce qu'il y a, c'est que, enfin, Paulin déjà est assez populaire. Enfin, Catherine avait déjà évoqué ça une dernière fois. C'est qu'on trouve déjà beaucoup de matériaux sur Paulin. Et moi, ce que je voulais, c'était déjà me servir. Ça va être un peu compliqué, mais du premier livre que Catherine Gell avait fait avec Archie Books, dans lequel il y a beaucoup de photos en noir et blanc que je trouvais assez belles.
Pierre Paulin designer.
C'est ça.
Ouais, l'anthologie, quoi.
L'anthologie, ouais. Et en fait, dedans, moi, ce qu'il y a, c'est que j'ai recherché des petits espaces, des petites choses que j'ai voulu agrandir, en fait, ou que j'ai voulu ressortir du contexte. Et en fait, j'ai donc amené, en fait, il y a différentes thématiques. Peut-être que c'est un peu long, mais il y a différentes thématiques qui sont justement, j'ai voulu montrer les ossatures ou encore des objets fictionnels, parce que j'ai trouvé que sur Paulin, justement, il n'y a pas, en fait, tout son processus de création a été quasiment effacé. Il n'y a pas ces petits, comment on appelle ça?
Des croquis.
Pas croquis, enfin, quand on fait des vêtements, c'est
les patrons.
Les patrons,
merci. Mm-hmm. Des patrons, des fauteuils, etc. Donc j'en ai refabriqué, que j'ai réinséré dans le livre, et pour avoir un peu une dimension aussi un peu fictionnelle dessus, quoi. Moi-même, un fantasme que j'ai projeté dans l'œuvre de Paulin, quoi.
Écoutez, France Culture et l'œuvre du compositeur Eric M. C'est presque un patron musical et sonore qui nous invite à l'imaginaire. Il sera accompagné du danseur irlandais Colin Dune pour une création inédite dans le cadre de ce Camping 2, Mathilde Monnier. Vous aimez l'interdisciplinarité, notamment en musique, avec Pete Gervais, avec Chili Catherine, on vous a vu travailler avec eux. Qu'est-ce que c'est que ce projet fou? Je crois qu'il y a un système d'amplification de son qui sera fixé aux chaussures du danseur.
Alors, il est fixé aux chaussures du danseur, qui est un danseur qui vient des grandes revues de Riverside, irlandaise. Il a été, alors j'ai regardé son CV il y a peu de temps, il a eu je sais pas combien de prix, c'est hallucinant. C'est vraiment un virtuose voilà, de cette technique. Il a commencé à l'âge de 3 ans, enfin il a fait ça toute sa vie, puis une espèce de crise à l'âge de 40 ans. Il a commencé à raconter, en fait, cette espèce de déconstruction de comment, et finalement, ce qui s'était passé dans sa vie. Il a commencé à avoir un espace critique face à cette expérience-là, et il a mis ça en scène. Et donc là, il le remet en scène avec Eric M, qui est donc compositeur, mais qui est aussi artiste plasticien, que j'adore. J'ai trouvé adoré écouter comme ça le morceau de musique, parce que je l'ai vu avec le spectacle, mais... Là, c'est différent. Et en fait, on les a mariés. On s'est dit, voilà, ils se connaissaient pas. On les a mariés. On les a mis dans un studio. Et voilà, ça a fait cette création qui est très, très belle.
L'interdisciplinarité, on sait que c'est l'un de vos mots manifestes aussi. Est-ce que vous essaieriez de nous dire un mot de cet enjeu-là? Vous combattez un petit peu dans ce sens pour faire entrer aussi les arts visuels, pour élargir le plateau de danse le plus possible?
Oui, alors bon, je suis pas aussi volontaire comme ça que vous le dites, hein, vous le dites très bien, mais
enfin, storytelling, vous savez parfois.
Mais ben, d'une manière très naturelle, je dirais, c'est-à-dire c'est que la danse a toujours côtoyé différents arts, alors peu le design, parce que peut-être c'est un peu plus compliqué, ou c'est plutôt des espaces de l'intimité, des espaces privés, mais peut-être pas forcément. En tout cas, j'ai pas d'expérience en tête.
Il y a eu un spectacle avec Catherine d'un designer, Robert Stadler.
Ah voilà, ouais, d'accord.
Ouais. Philippe Catherine. Ouais,
Philippe Catherine, ah ben voilà. Mais en danse, je sais pas si ça s'est fait. Même si effectivement il y a déjà des objets qui sont rentrés sur les plateaux, mais c'est vrai que c'est plus des liens avec des plasticiens là pour le coup.
Il y a Bianca Lee aussi qui a dansé sur des divans, ah, aussi, oui, designés par Pablo Reynoso.
Ah ben voilà. Ouais. Noguchi Martagram.
Voilà, oui.
Ah, vous voyez, qui a fait des tables, qui était un plasticien, voilà, mais qui a fait des meubles aussi.
Oui.
Mais on sait que Pina Bausch, par exemple, a un rapport compliqué avec les chaises dans son café Müller. Il vous est arrivé, non pas de marier, parce que vous dites que le corps n'est pas un objet, justement, mais d'avoir une relation particulière
avec des objets,
avec les objets, pour danser.
Alors, je suis pas, j'ai du mal, mais par contre, c'est vrai que les chaises et les tables, ça me fascine. Ça, c'est vrai que c'est et en plus, enfin, c'est des vrais objets de scène. Alors, c'est très dur parce qu'il y a des gens qui ont fait des choses très bien. Dont Pina Bausch, mais pas seulement, Anne-Thérèse de Kersmacher avec des chaises.
Bien
Wilson,
sûr.
Alors Wilson, on n'en parle même pas.
Bob,
et du coup,
de son prénom.
Voilà. Et puis sur les tables, Forsythe a fait une pièce absolument magnifique.
William,
avec des
toujours.
Tables. William, Bob, oui. Un autre. Et du coup, voilà, il faut arriver à faire mieux. Et ça, c'est plus compliqué.
Mais par exemple, comment, quelles sont, on va dire, les disciplines comme ça qui vont muter, qui vont s'hybrider pendant ce Camping 2, Mathilde Monnier?
Alors, beaucoup de disciplines, et une discipline qui est là, qui arrive dans, c'est assez marrant, parce qu'en fait, c'est les arts de la marionnette. Alors, moi, j'étais pas une spécialiste, j'avoue, mais on a invité une école l'école de la marionnette, et, pour la première fois, ils vont se mêler à la danse. Donc, ça, c'est assez nouveau. Et puis, voilà. Et puis, il y a des spectacles aussi. Ce soir, il y a, voilà, Sophie Pérez avec une danseuse qui vient du cabaret, qui s'appelle Sophie Lenoir. Et là aussi, on attend quand même une sorte d'hybridation, une sorte de chose autour de la créature cabaret, qui peut être complètement assez étonnant.
Il y a aussi une volonté d'hybrider, on va dire, les genres, on va dire les chapelles aussi, avec la hiérarchie que ça peut impliquer parfois aussi dans la culture.
Oui, mais alors oui, les gens s'hybrident assez facilement, mais je sais pas.
De nos jours, les gens s'hybrident.
Hein. Les genres, oui, oui. Non, mais j'ai pas très bien compris votre question. Peut-être qu'il y a un sens caché.
Le sens caché, c'était ou en tout cas, enfin, je vais pas essayer de le cacher. Il y avait pas de malice de ma part, mais en tout cas, c'était l'idée que, à la fois à travers les générations et aussi, on va dire, les différents genres, vous faites des mélanges qui sont plutôt d'ordre à décloisonner, on va dire, et public. Et chapelle de discipline dans la danse, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on aille voir des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir et qu'on se retrouve à produire quelque chose qu'on peut regarder de haut ou de bas.
Voilà, alors c'est ça. En fait, le camping, c'est un peu ça. C'est-à-dire, on ne sait pas quelle est à la tente d'à côté, on ne sait pas qui y a. Donc, il y a par exemple, effectivement, un acteur qui fait de la philosophie. Il des danseurs qui dansent dans la rue. Il y a des enfants qui viennent écouter des petites conférences sur la poésie. On a eu une conférence sur la robotique pour des petits enfants. Il y a des séances de projection. Il y a des cours dans la rue. Donc, tout ça, effectivement, se converse, je dirais, d'une manière assez... joyeuse, en fait, dans ce camping.
Mais à propos d'hybridation, de conversation, d'interdisciplinarité, on est aussi, je crois, au cœur de la démarche du designer. Catherine Gell, Pierre Paulin, n'aurait pas existé sans les rencontres qu'il a faites, par exemple avec un certain monsieur Pantone, qui a été aussi un ami, en plus d'un collaborateur. Le travail du designer se fait en interdisciplinarité, et même, je crois, peut-être davantage dans les travaux que vous lui consacrez à ce Pierre Paulin, vous insistez sur ce qu'on pourrait peut-être appeler une confluence d'inspiration. Il y a plusieurs Paulins à l'intérieur de Paulin, et des inspirations nordiques au pluriel.
Oui, ça c'est cette idée très banale, ou très normal, que évidemment on travaille avec son époque en plus, et donc effectivement Paulin a regardé des choses de manière extrêmement précise par une espèce de rejet, on va dire, de ce qui était grosso modo son pays après la guerre, a voulu regarder un design qui était le design nordique ou le design américain. Et mais ça c'est un truc aussi que je trouve assez assez intéressant, parce qu'en fait il s'est effectivement incroyablement inspiré de certaines formes, et en plus il se trouve que on regarde deux choses d'un designer américain par exemple et de Paulin, que ils le font à peu près à la même époque, et que c'est des objets qui se ressemblent de manière absolument incroyable.
Certains Miller, pour ne pas le nommer,
Nelson aussi, Nelson. Beaucoup chez édité chez Herman Miller, effectivement. Et en fait, quand on check les choses, Paulin n'a pas pu voir cette chose de Nelson, mais il a vu celle d'avant.
Donc, c'est ce qu'on découvre dans vos notes, voilà. Très précises, pour le coup.
Oui, j'adore ça. Et non, mais c'est aussi parce qu'en fait, il y a cette espèce d'idée à un moment que la question de la copie, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Alors, est-ce que machin a copié bidule, etc. Et qu'en fait, je crois que justement, c'est un dialogue, en fait. C'est-à-dire que les gens se regardent, ils regardent ce qu'ils font, et que d'une certaine manière, enfin, quand vous regardez ce que Star Café, vous trouvez des pièces de 10 000 autres designers italiens des années d'avant qui l'a regardé. Et que moi, ce dialogue-là, il m'importe. C'est l'industrie ou c'est le fabricant qui est gêné par la copie. C'est jamais le designer ou le créateur ou l'artiste. Enfin, je crois pas. En tout cas, il me semble que ça fait partie de comment les choses se font et avancent ensemble. Enfin, ça me semble évident.
J'ai toujours eu besoin de me protéger de l'extérieur, parce que je suis probablement fragile. Ça m'a rendu timide et puis aussi agressif. Donc, mes rapports avec l'extérieur ont toujours été, sinon conflictuels, ce qui est arrivé très souvent tout de même, difficile. J'ai toujours dit que j'étais quelqu'un d'extrêmement instinctif, un peu animal, donc, quelque part. Et quand je ne savais pas parler, parce que quand j'étais plus jeune, je ne savais pas du tout parler, du tout communiquer. C'était épouvantable. Et ma table à dessin me servait d'intercesseur avec la collectivité. Comme je suis un être social, je devais communiquer. Alors j'ai trouvé ce moyen-là, et le dessin des objets... je suis quelque part dessinateur en barreau de chaise, puisque je me suis surtout appliqué à dessiner du mobilier, mais ça, c'était simplement une opportunité. J'aurais pu dessiner n'importe quoi d'autre.
Pierre Paulin, au micro de Catherine Gell pour France Culture, c'était dans À Voix Nue, et on l'a récupéré, réutilisé, recyclé dans le documentaire pour la collection Une Vie, Une Œuvre. Pierre Paulin, dessinateur en barreau de chaise, qu'on peut trouver sur les internets, sur franceculture.fr. On entend ici à la fois l'évocation de la fragilité, de ce besoin peut-être de se dissimuler, comme il dissimulait le squelette de ces objets à travers, sous cette couche de stretch notamment, ou de plastique. On entend aussi son côté animal et instinctif, et pourtant il a pu faire valoir, notamment à sa femme qui témoigne dans ce documentaire, qu'il ne se sentait pas un loup comme l'étaient selon lui les artistes animaux sauvages et libres. Lui, il se sentait plutôt comme un chien au croc limé, si on cite La Fontaine. Il a toujours tenu, et vous y insistez dans vos travaux, Catherine Gell, à se démarquer de la figure de l'artiste.
Oui, mais ça, c'est parce que c'est énormément lié, pardon, c'est très lié à un rapport très compliqué qu'entretient le designer avec son statut. C'est-à-dire qu'il est du côté des arts appliqués, il n'est pas du côté des beaux-arts. Et en fait, à partir de là, s'énonce un tas de problématiques hyper historiques, si je puis me permettre de le dire
ainsi. Ils vont remonter au Bauhaus, notamment.
Oui, voilà, qui fait que cette discussion n'a jamais cessé, qu'elle continue dans les années 60 et qu'elle continue dans les années 80 et qu'elle se répercute encore aujourd'hui dans ce chose éternelle de est-ce que c'est du design, est-ce que c'est de l'art, etc. etc. Les anglo-saxons, en particulier les historiens anglo-saxons, ils ont réglé la question de manière beaucoup plus, en général, pragmatique, en fait, tout simplement. Et là encore, la question de la porosité me semble essentielle. C'est-à-dire qu'en fait, les designers ont fait des films, enfin, il y a des tas de choses qui se sont passées. Donc, il n'y a pas de raison qu'ils soient absolument cantonnés, justement, à faire des barreaux de chaise.
Et précisément, Karl Navro, vous, qui êtes à la fois designer et artiste, vous étiez du côté du loup ou du chien pour vous emparer de Pierre Paulin?
Non, en fait, je ne me considère pas comme un artiste, mais vraiment comme un graphiste. Voilà. Encore une fois, ici, même en tant qu'illustrateur.
Oui, il est très
français. Typique. Ouais, non, mais c'est parce que quand même, je réponds à des commandes. Enfin, c'est toujours ce que les graphistes disent, mais en effet, ici, c'est encore un travail de commande. Et donc, j'ai répondu en fait comme un graphiste, mais qui fait de l'illustration quoi, dans ce livre-là, quoi. Et je me sens, je sais pas d'ailleurs encore ce que je me sens.
Vous n'avez pas sorti les crocs?
Ils sont mal.
Non, j'ai pas sorti les crocs, non, pas encore, du moins, pas eu besoin.
Mais schizophrène, vous en avez déjà vu des schizophrènes? Je trouve que c'est une question insolente, mais bon, à la fois pour Guattari qui quand même est, il travaille depuis des années dans une clinique où il est notoire qu'on voit des schizophrènes quand même. C'est même insolent pour moi parce qu'il y a quand même il y a d'autres gens qui ne voient pas les schizophrènes. Il n'y a pas que moi qui ne voient pas. Alors j'avais répondu comme ça. On croit toujours être spirituel, on n'est jamais en fait. J'avais répondu, mais jamais j'ai vu les schizophrènes moi. Alors après, elle avait écrit dans les journaux en disant que j'avais jamais vu de schizophrène. C'était complètement embêtant ça par rapport au bouquin. Par exemple, Lagarche. Il a tenté de faire une psychanalyse personnologique. Pour mon plaisir, je pense que la thèse de Lacan a réédité la dernièrement sur la psychose paranoïaque est encore traversée d'une vision personnologique.
Faire le Gilles. Faire son Gilles, c'est faire son Gilles Deleuze. C'est signé Robert Cantarella, qu'on retrouve dans le cadre de ce camping de Mathilde Monnier. Vous l'avez choisi, c'était là un extrait de ce qu'il avait pu présenter déjà à Avignon. Faire le Gilles, c'est-à-dire reprendre les intonations, le phrasé, le rythme, les silences de Deleuze, sa pensée, mais pas en faire une copie. Justement, est-ce que c'est pas un spectacle qui réfléchit aussi sur ce dont parlait Catherine Gell, la copie et le rapport dont les artistes s'emparent des autres artistes?
Alors la copie, c'est quelque chose de très important. Parce que moi, je travaille beaucoup sur cette question de la copie et je la mets beaucoup au travail avec mes étudiants et je leur demande beaucoup de copier. Parce que justement, on voudrait toujours être créatif, on pense toujours que la création, c'est la liberté, que c'est en dehors de tout, que d'un coup, on se lève le matin, qu'on a une super idée. Pas du tout. On sait bien que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et justement, ce travail de copie, c'est pour ça que j'adore ce travail de Robert Cantarella, je trouve ça fantastique, c'est que plus on est prêt, plus effectivement on voit l'écart, et plus on voit vraiment la distance, l'espace créatif apparaît. Et en fait, Robert, ce qu'il fait, c'est que finalement, puisqu'il a la voix dans l'oreille, la voix de Deleuze dans l'oreille, c'est qu'il recopie d'une certaine manière cette voix. Et c'est justement cette petite différence qui fait que d'un coup, on voit Deleuze. On le voit presque, enfin, on le voit, on l'entend, il est sur scène, c'est absolument magnifique. On entend même sa respiration asthmatique. Et ça, j'étais quand même sidérée la dernière fois de rentendre. Voilà, c'est à tel point, c'est précis.
C'est une reprise, entre autres, des cours qu'il donnait à l'université de Vincennes. Et ce qui est intéressant aussi dans ce travail, c'est une mise en abyme, mais aussi peut-être de votre réflexion, vous, sur la transmission. Parce que c'est vrai que lorsque vous organisez Camping 2, vous faites aussi une réflexion sur la transmission, puisqu'il y a des écoles qui seront présentes, des artistes, des chorégraphes. Mais voilà, vous parliez, je crois, des années, à la fin des années 70, de ces grandes réunions chorégraphiques de la profession qui n'ont plus lieu. Donc est-ce que voilà, c'est pas aussi une réponse sur la transmission Camping 2?
Ah si, tout à fait. c'est un espace pur de transmission. Et c'est vrai que moi, c'est toujours été des questions qui m'intéressent parce qu'elles sont inhérentes. Voilà, notre profession, mais même à la création, il n'y a pas de création sans transmission. Mais c'est pas que du pur pédagogique, c'est-à-dire on n'est pas entre soi en train de se regarder. Alors il y a 16 écoles du monde entier qui viennent, même du Japon, il y en a du Brésil. Enfin, c'est complètement des États-Unis, c'est complètement insensé, c'est improbable, c'est impensable de faire une chose comme ça. Mais je sais plus ce que je disais. Voilà,
c'est pas pédagogique au sens pur.
Oui, parce que moi j'aime pas les trucs scolaires, donc j'ai toujours besoin que ça déborde, que ça me dépasse, parce que dès que c'est scolaire, c'est ennuyeux, tout est prévu, c'est méthodologique. Alors il en faut de la méthodologie, mais il faut que ce soit plus que ça. C'est un espèce de Woodstock comme ça, il faut que ce soit un peu plus compliqué. Il faut que les gens, alors je dis pas fument des pétards, mais un peu fument des pétards d'art.
Catherine Gell, je ne sais pas
oui,
si,
oui, non, mais j'enseigne,
si vous
j'enseigne
subvertissez,
aux Beaux-Arts.
Voilà, vous enseignez aux Beaux-Arts, oui, vous mêlez du recrutement à l'école normale supérieure de Cachan.
Est-ce que vous fumez des pétards d'art, Catherine?
Mais attendez, toutes les 5 minutes, sinon je ne vis pas. Non, c'est extrêmement important, évidemment, mais en plus, c'est d'autant plus important, j'allais dire. On assiste, alors je parle là de mon côté, effectivement, où je zone, si je puis dire, dans des écoles d'art, donc dans des sections de design ou d'artistes. Et en fait, aujourd'hui, on voit qu'avec cette espèce de globalisation européenne, il y a à la fois un truc qui s'est extrêmement affaibli et assagi, alors qu'en fait, il y a les moyens de recréer effectivement des possibilités de débordement. Oui, je suis absolument pour la possibilité de débordement du moment que le mémoire est fait en temps et en heure.
Mais si on parle de... si on parle de transmission et qu'on parle de Pierre Paulin, qu'est-ce qui nous reste de Pierre Paulin au moment où, en effet, depuis une dizaine d'années maintenant, il est célébré, il est sorti de l'oubli, on spécule sur les pièces qui sont de sa main ou qui ont été recréées à partir de ses modèles, de ses patrons, et où en même temps, on a pu, on a pu considérer comme le designer du pouvoir, puisqu'il a fait des salons pour Pompidou, un bureau pour Mitterrand à l'Élysée, et au fur et à mesure, on a fait disparaître ces pièces de l'Élysée, sauf le fameux lustre plafond qui est classé. Voilà, qu'est-ce qui nous reste en termes de transmission de Paulin?
Je ne sais pas si Paulin était un transmetteur. Je pense que il souhaitait que c'est, enfin, il était très attentif à ce qu'il créait, bon, qui est aussi un grand classique du design, c'est-à-dire que ce soit pas trop en avant, mais dans le moment, hein, il y a quelqu'un comme Raymond Lévy qui parlait de ça aussi, le stade Maya, yet acceptable, etc., etc.
Ça s'est posé sur n'importe quelle table d'étudiants en graphisme.
Ouais. Mais je sais pas si c'était vraiment quelqu'un qui avait la volonté de transmettre, en fait, lui personnellement.
Mais ces formes, est-ce qu'elles nous restent aujourd'hui d'une façon ou d'une autre, dans un détail, dans une reprise, une réinterprétation?
En tout cas, lui, oui. Ces formes, elles ont été reprises de manière incroyable par des générations et des générations de designers après lui. Alors ça l'énervait beaucoup, alors que lui-même s'était énormément inspiré de plein d'individus qu'il avait regardés. Ça, c'était hyper extrêmement drôle à entendre et d'en discuter avec lui. Mais c'était sûrement quelqu'un qui était inquiet, en fait, de cette question de la reconnaissance. Son rôle institutionnel, puisqu'on parle aussi quand même de questions finalement d'institution ce soir, c'est quelque chose qu'il a relativement mal vécu. Il a eu l'impression d'être vraiment marqué du fer, de la connivence avec le pouvoir, alors que c'est des choses un peu plus complexes, évidemment, que juste celle-là. Et en même temps, il avait la sensation de ne pas être reconnu par l'institution. Enfin, c'était une espèce de complexité absolument affolante. Après, ce que je trouve intéressant aujourd'hui, c'est de voir comment ça s'institutionnalise, la reconnaissance, qu'est-ce qu'on fait de quelqu'un qu'on remet dans l'institution. Et ça, je trouve ça moins drôle, je dois l'avouer.
Le sort qui est réservé à Pierre Paulin aujourd'hui dans la réinstitutionnalisation, par exemple,
qu'il soit à Pompidou, ça
non,
vous désespère?
Non, mais ça, c'est super. Non, ça ne me désespère pas du tout. C'est important, voilà, c'est important. Après, ce qui est dit des choses à ce moment-là, c'est-à-dire, en fait, ce qui est mis en avant, c'est à nouveau l'institution dans l'institution. Je préfère aller voir camping, quoi, ça, c'est sûr.
Il y a une forme de réécriture aujourd'hui, vous dites?
Oh non, mais ça, la réécriture, enfin, tout le monde en fait, je dirais, c'est normal. Et j'ai une lecture, d'autres ont des lectures. Ça, au contraire, c'est plutôt riche. Il y a, dans le catalogue, il y a des petits rapports qui sont faits, qui sont vachement intéressants, qui sont très, vachement bien. Donc non, je veux pas du tout, au contraire. Plus il y a point de vue, mieux c'est. Mais il faut toujours s'amuser quand même.
Et pour s'amuser, puisque votre manifestation, Mathilde Monnier, donc intitulée Camping 2, rien à voir avec le film, je crois, actuellement sur les écrans,
je crois
ou très bientôt.
Plus, ils en sont au 3. Hein.
Ils en sont déjà au 3.
Malheureusement, dépassé. Pardon.
Voilà, c'est votre côté réactionnaire, certainement, qui fait que vous n'êtes qu'à Camping 2. Ça s'est inspiré d'une expérience que vous avez menée, je crois, à Montpellier, qui s'appelait Potlatch. Donc, cette cérémonie amérindienne de dons et de contre-dons, à la différence des gens qui aujourd'hui collectionnent et spéculent sur les objets signés Paulin, l'idée pour vous, c'est qu'on détruise tout ce qui est proposé, comme dans un potlatch digne de ce nom, à la fin de la manifestation, et qu'il n'y ait plus que les formes qui restent dans les esprits.
Non, l'idée c'est pas l'idée c'est pas tout détruire, c'est d'échanger, parce que le potlatch c'est aussi un échange symbolique. Et moi, ce qui m'intéresse dans le potlatch, c'est l'échange symbolique aussi avec le spectateur, c'est-à-dire qu'en fait l'histoire, là, le spectacle c'est quoi? C'est finalement donner quelque chose à des gens qui sont là, qui vous rendent aussi quelque chose, mais c'est quoi finalement cette espèce de tractation? Bon, les gens payent un billet, mais qu'est-ce qui se passe dans ce moment où c'est quoi cet acte symbolique entre nous? Quel est le contrat symbolique entre un spectateur et puis un acteur? Et c'est un peu aussi ce qu'on fait dans Camping, puisqu'il y a quelque chose aussi qui est ouvert sur le grand public, pour les enfants, pour les amateurs, pour tout ça. Donc moi ça m'intéresse toujours ces questions d'économie où il n'y a pas d'argent, c'est-à-dire effectivement on donne quelque chose, qu'est-ce que l'autre me doit, du coup il me doit quelque chose, du coup il y a une dette entre nous, et comment est-ce qu'on surenchérit sur la dette, et tout ça je trouve c'est très créatif, ça donne beaucoup d'idées. C'est-à-dire, quand on doit rien à personne, on n'a pas d'idée, puis il n'y a pas de geste à faire. Alors, par contre, quand on est redevable, c'est très intéressant, parce qu'il faut surenchérir. Voilà, il y a toute une espèce d'économie de la création qui est très belle.
Catherine Jeanne voulait réagir, je crois.
Oui, non, le terme de potlatch me fait réagir, parce que, par exemple, les designers qui n'ont pas toujours énormément de références, il y a quelqu'un qui lise, c'est Baudrillard, par exemple. Alors, qui en parle. Moi, je pense que quand même, le potlatch summum, ça se termine effectivement par la description, enfin, la consommation absolue et la discussion. Ouais. Mais là encore, évidemment, les designers ne sont pas tellement... Enfin, la question de l'échange et du don, justement, elle se repose, en fait, par rapport à ce que vous disiez au début. C'est-à-dire, et c'est une question que je trouve très actuelle aujourd'hui aussi, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a un don? Alors, le rêve du designer, ça serait presque un don universel, c'est-à-dire qu'à un moment, le standard, cette question du standard, ce qui irait à tous et qui permettrait à tous d'être, alors c'est des questions de confort, d'utilité, etc., etc., ça serait quelque chose qui pourrait ressembler à une forme de don universel. Et c'est une idée qui, finalement, aujourd'hui, est compliquée, en fait, parce qu'on est dans un espèce de moment où, au contraire, tout est absolument individualisé, etc., y compris les questions de design. Hein. On est dans un moment qui, finalement, s'est éloigné de l'industrie.
Il y a une accélération vers la pièce unique, vers la spéculation.
Ouais, il y a des questions de marché, etc., etc. Et je crois que Paulin, par contre, il avait ce souhait d'être absolument... Et je pense que cette question il dirait presque, il aurait été capable de dire la mollesse, mais on va dire du confort. C'était parce que justement, textile plus mousse, ça s'adaptait à tous les corps. C'est plus du tout des notions de confort d'aujourd'hui. Enfin, on est dans d'autres rapports, mais finalement, il y avait cette espèce de côté-là. Donc, le don du designer, c'est bizarrement ce qui nous semble aujourd'hui le plus atroce, c'est-à-dire le standard.
Mathilde Monnier, dans votre écriture de danseuse et de chorégraphe, je sais que vous définissez le geste chorégraphique quand même comme quelque chose qui va proposer une pensée du monde moderne, là où d'autres voudraient au contraire mettre en avant d'abord l'esthétique du geste. Donc est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous placez dans cette tension et pourquoi vous basculez plutôt sur cette idée de, on va dire, d'une pensée avant le geste?
Non, enfin, c'est oui. Pas tout à fait...
Attention, ouais. Non mais précisez bien.
Non mais parce qu'après on me traite toujours d'un télo et tout ça, ça m'énerve un peu, mais...
Vous êtes sur France Culture, hein.
Oui, ça va pas vous aider. Faire, mais...
On a entendu pire comme insulte.
Non, parce que je pense, passage, parce que à l'inverse, on a toujours vu la danse comme une espèce de pur geste de beauté, sans pensée, d'un corps complètement... Alors c'est vrai que c'est pour ça que je renchéris toujours du côté de la pensée, c'est qu'un corps pense toujours, il pense, autrement il n'est pas un corps, voilà. Mais bon, moi, mes corps dansants, ils ne sont pas plus pensants que d'autres corps. C'est simplement que pour danser, il faut penser, c'est tout. Et ça se voit. Et par exemple, il y a des chorégraphes que j'adore parce que j'ai l'impression de voir l'intelligence bouger. Je pense notamment à des gens comme Merce Cunningham ou Lucinda Child qui est chez nous. J'ai l'impression que se matérialise l'intelligence et qu'on la voit physiquement. Et c'est une sensation très physique et très charnelle. Donc c'est pas du tout de la pure spéculation.
C'est pas ni purement intellectuel, ni purement esthétique, c'est charnellement intellectuel.
Exactement, vous le dites très bien.
Et Catherine Gell, je crois qu'en revanche, Paulin s'amusait qu'on interviewe les designers sur la question de la mort, ou je sais pas quoi, de l'amour, même s'il y a un amour des objets, vous avez signé un article sur cette question, il préférait dire, bah oui, je fabrique une chaise, c'est une chaise.
Oui, absolument, j'ai rien à ajouter là.
1, 2, 3...
Bien, merci beaucoup à tous et à toutes. Mathilde Monnier, Catherine Gell et Karl Navro. Mathilde Monnier, donc ce Camping 2, il est à découvrir, expérimenter jusqu'au 1er juillet à Pantin, mais aussi dans 8 autres lieux à Paris, à Lyon et à Vanves. Quant à vous, Catherine Gell, avec Karl Navro, vous signez ce Pierre Paulin, petit, précis et illustré, édité par TNP Publishing et France Culture. Il y a votre Pierre Paulin designer chez Archibooks, vos avoies nues, vos entretiens pour France Culture qui sont quelque part dans un trésor de la Maison de la Radio. Et puis cette grande exposition Pierre Paulin au Centre Georges Pompidou, c'est jusqu'au 26 août.
La deuxième partie de cette émission, après la mi-temps, la suite de Ping Pong est consacrée à Maurice Dantec, l'écrivain qui est décédé à l'âge de 57 ans d'une crise cardiaque, qui vivait au Canada. On l'a dit parano, on l'a dit mutant. Et on va aussi pouvoir étudier sa figure avec vous, Zoé Sfez, en compagnie de Thierry Angelier.
François.
Oh là écoutez, j'étais bon sur tous les prénoms jusque-là, qu'est-ce qui m'arrive?
J'ai le même problème, je compatis.
En effet, Zoé, votre dossier ce soir, c'est donc un hommage, ou un dommage peut-être, à l'écrivain, à la prose extra-lucide qui a passé la littérature au crible d'un entendement déglingué, de drogue génétiquement modifiée et de lectures exaltées. Un journal de la culture donc dédié à Maurice G. Dantec, écrivain profondément à part dans le champ de la littérature française, qui auteur de 11 romans qui ont fait de lui l'une des voix les plus importantes, ou du moins les plus novatrices, à la fois du polar, de la science-fiction, qu'il a su transcender pour une écriture nouvelle, figure singulière aussi car le personnage et son rapport de plus en plus chaotique au réel ont autant marqué que sa littérature.
Oui, alors destin singulier, profondément tragique, on peut le dire, que celui de Maurice Dantec, né à Grenoble de parents communistes, acclamé dès son premier roman, ou plutôt encore plus dès son deuxième, qui n'a eu de cesse de vouloir transformer la littérature, le réel, jusqu'à s'y perdre, on peut le dire, et à mourir complètement épuisé par les maladies, les drogues, au Canada, où il s'était exilé à 57 ans seulement, sans que ça n'étonne aucun de ses amis. Maurice Dantec, avant tout, autodidacte, qui a grandi dans la mouvance punk. Dès ses jeunes années, il fait du rock, crée plusieurs groupes. C'est d'ailleurs par la musique que Jérôme Schmitt l'a rencontré. Il fut son ami, son collaborateur aussi, puisqu'ils ont enregistré ensemble plusieurs disques, et aussi son dernier éditeur. On verra que ça a son importance avec Les Résidents, roman paru en 2014 aux éditions Inculte. Il est l'un des rares, Jérôme Schmitt, à avoir gardé de très bonnes relations avec Maurice Dantec jusqu'à la fin de sa vie. Il explique comment, pour lui, il représente une figure majeure de la littérature, et que ce fut le cas dès son premier roman, La Sirène Rouge, paru en 93.
Son premier roman, c'est un polar de facture assez classique. Son point le plus extraordinaire, c'est que c'est le plus gros livre écrit, je crois, en série noire, de l'histoire de la série noire de chez Gallimard. Et ce qui l'a fait exploser, c'est Les Racines du Mal. C'est son deuxième roman, qui est vraiment un croisement des genres. C'était le premier à faire cet hybride cyberpunk, polar, hard-boiled à la Elroy, et aussi des influences Ballard, des influences Kadic, des influences Gibson. Donc c'est quelqu'un qui, je pense, avec ce livre-là et aussi avec le suivant, Babylon Baby, il a réussi vraiment à ouvrir à toute une génération de lecteurs qui lisaient peut-être un peu de polar, qui lisaient peut-être un peu de SF, mais qui faisaient pas le croisement entre tous les genres, entre littérature blanche, entre littérature de genre. Il y a un truc qui est assez simple et qui était assez nouveau à l'époque, je crois, c'est qu'à la fin, il mettait sa bibliographie, sa discographie, et ça allait aussi bien de Deleuze aux Sex Pistols, de Nietzsche à William Gibson ou à Jeremy Narby et les expériences psychédéliques. Donc c'est vraiment quelqu'un qui dévorait vraiment les livres, il lisait vraiment tout le temps, a réussi, je pense, à vraiment ouvrir un champ comme ça dans la littérature et faire de livres qui étaient vraiment a priori invendables au départ, des best-sellers à l'époque, à la fin des années 90.
Voilà, des best-sellers, mais quand même avec souvent une dimension qui regarde le futur, un futur qui est souvent d'une violence, d'un pessimisme inouï et qui dépasse largement le genre du roman d'anticipation. Une vision du réel, quand même, Jérôme Schmitt le dit, effectivement, très nourrie à la fois par la maladie, la bipolarité, on peut le dire, de Maurice Dantec, lecteur compulsif, mais qui consomme aussi beaucoup de drogue. Mais oui, d'ailleurs, c'est vrai qu'il en a consommé des différentes, plutôt comme par exemple de la mescaline, des pétards hallucinogènes. Et vous, François Angelier, vous avez rencontré Maurice Dantec. Est-ce que vous avez consommé des drogues lors de cette rencontre? Dites-le maintenant.
Ah ben non, mais rencontrer Dantec, c'est consommer la drogue Dantec. Donc non, on n'a rien. Lui, il avait un petit joint sur lequel il pétunait, pas comme ça. Mais non, on a parlé de Irénée de Lyon, d'Henri Corbin, de Saint-Augustin, de la théologie, de la patristique, parce que...
De Deleuze aussi ?
Un peu, oui, mais c'est pas trop mon truc. Moi, j'ai plutôt tiré vers la théologie, parce qu'effectivement, j'étais très attentif. J'ai rencontré une fois, c'était chez Gallimard, sous les Lambris, la rue Sébastien-Bottin, il y avait devant moi Dantec, et j'avais pas envie d'avoir affaire au Dantec qu'on pourrait retrouver dans les magazines, le Dantec, le numéro Dantec. Donc j'ai voulu le sortir de son Dantec circus pour essayer d'avoir autre chose, et j'y suis arrivé d'ailleurs. Enfin, j'ai entendu autre chose, c'est-à-dire grosso modo les racines, l'angoisse théologique, ou peut-être ontologique, qui est à l'origine de tous ces livres.
Alors justement, on va y revenir. Angoisse théologique, angoisse en tout cas, effectivement, de la question du réel, et puis angoisse aussi de ce que peut la littérature. Il l'expliquait dans un entretien accordé à Radio France Internationale. C'est une espèce de vision mystique et à la fois pessimiste de la littérature elle-même. C'était en 99.
Si j'ai une ambition, c'est de transformer la science-fiction en science de la fiction, et non plus uniquement en fiction de la science. C'est-à-dire que là, maintenant, il me semble que les écrivains, bizarrement, j'allais dire, les exclus, les reclus, les gens dont on se fiche complètement, sont peut-être, on est peut-être là, une espèce de famille encore un peu secrète qui ne se connaît pas, et c'est peut-être nous qui avons les clés du futur entre les mains, sans même qu'on le sache. Mais en même temps, c'est un argument purement romanesque. Voilà quoi, moi non plus, je ne sais pas de quoi le futur va être fait, hein. Donc nous, on peut être malgré tout encore que des radars. On peut épouser là ce type de processus, essayer de comprendre de quoi la réalité est faite, mais il y a comme un échec un peu ontologique au roman quand même. On veut faire ça, et de temps en temps, on paraît clair, on y parvient, mais dans la totalité de l'œuvre, c'est rare, quoi. Y compris pour moi, le regard que j'ai sur mes propres livres.
Alors, pessimisme de Maurice Dantec, qui déjà, d'ailleurs, à l'aube des années 2000, on est pile à ce moment-là, rompt à la fois avec la France et avec la fiction. Il s'installe à Montréal, il s'exile, et il publie Théâtre des opérations, journal métaphysique et polémique, dont le premier volume s'intitule Manuel de survie en territoire zéro. C'est publié en 2000, et c'est un essai à caractère autobiographique où il laisse libre cours à ses réflexions, notamment politiques. Il commence à développer une espèce de rhétorique mystique, assez proche de l'extrême droite, pour laquelle il avoue clairement avoir une forme de fascination. Sa pensée commence à être qualifiée, notamment en France, de réactionnaire. Et il amorce, dans cette année 2000, un durcissement à la fois idéologique et à la fois dans sa littérature de plus en plus dense, de plus en plus difficile à consommer. Laurent Corot est réalisateur, il est journaliste. Il a été l'un des proches de Maurice Dantec, qu'il a souvent interviewé. Et il analyse pour lui ce moment de rupture.
Le truc, c'est que c'est justement la culture de laquelle vient Maurice, encore une fois le post-punk, a toujours flirté avec l'extrême droite et avec certaines formes de spiritualité un peu inattendues. Alors ça pouvait aller du satanisme ou à l'extrême inverse, donc dans le cas de Maurice, effectivement une sorte de renouveau christique. Pour ma part, j'ai pris ça au départ avec une pincée de sel, donc j'ai trouvé ça un petit peu effectivement folklorique de sa part. Et puis finalement, en réalité, mon opinion n'a pas tellement changé, parce que malgré certains discours à l'emporte-pièce, ça restait comme quelqu'un de plutôt gentil et qui essayait plutôt d'avertir de quelque chose, même s'il le faisait avec les mauvais filtres. Je me rappelle de Maurice qui me dit « Écoute, c'est totalement génial. Depuis que je suis à Montréal, je fréquente des profs d'université auxquels je vais prendre de la mescaline. » Donc, globalement, je pense qu'il était passé effectivement à un autre stade de consommation, dans quelque chose d'extrêmement psychotrope. Et donc, effectivement, à bout d'un moment, on s'y perd. Ce qu'on peut retrouver d'ailleurs dans un certain nombre de ses derniers livres, où les dimensions s'interpénètrent. Donc, il me semble difficile d'avoir un avis analytique, critique, sur cette période de Maurice Dantec. Pour moi, il était vraiment parti, il était déjà très loin.
Alors, est-ce qu'il était déjà très loin? En tout cas, il n'était plus en France, et il ne voulait plus être en France. Il multiplie les prises de position royalistes, un discours extrêmement critique à l'égard de l'Hexagone, à l'égard de l'Europe. On peut l'entendre d'ailleurs dans cet entretien à voix nue réalisé par Sandrine Trainer. C'était en 2014.
Évidemment, un écrivain français, enfin français, je ne me considère plus comme français, il faut bien que ce soit clair pour tout le monde. Un écrivain, disons, de langue française qui se met à s'enferrer dans la théologie, vous voyez, qui soudainement se met à parler de saint Thomas d'Aquin et pas de Michel Onfray, effectivement, ça pose un problème.
Lequel, selon vous ?
Le fait que cette soi-disant civilisation française n'existe plus, n'a plus aucun référent, n'a plus aucun passé, on l'a détruit, on l'a érasé. Donc elle n'a plus aucun futur, même pas proche.
Alors, je ne sais pas si on va parler avec vous, François Angelier, qui est donc à nos côtés. Vous êtes venu armé, peut-être pour parler sinon du futur proche de Maurice Dantec, qui vient de décéder.
Pour revenir sur ce qu'on dit sur son départ au Canada, je pense qu'il a fait comme Bernanos, c'est-à-dire que Bernanos a quitté la France, qui était celle du maréchal Pétain et du général Franco, pour aller au Brésil, qui était l'horizon des terres sans hommes, la nature sauvage, la vraie pauvreté. Pareil, Dantec, il est parti au Canada, un peu comme Bernanos est parti au Brésil, pour essayer de retrouver une espèce de France qui est celle fantasmée de la vieille France du Québec, parce que la France qui était celle qu'on lui donnait à vivre, lui donnait envie de vomir. Donc, il rejoue un peu ça. C'est un peu pareil que Dominique de Roux qui est parti aux confins de l'Afrique pour trouver Jonas Savimbi et le cinquième empire, les guerres coloniales. Tous ces des types qui sont en partance parce que ça va plus. Je veux dire, c'est la phrase de René Char. Tu as bien fait de partir, Arthur Rimbaud. Ben, Rimbaud est parti au Harare vendre des flingues. Ben, c'est pareil. À un moment, les gens, c'est trop. Alors, ils partent. Eh bien, Dantec, il est parti.
Mais vous êtes là avec quelques-uns des textes de Dantec. Vous avez une ligne de Dantec à nous faire partager.
Oui, moi, je suis plutôt Dantec deuxième période.
Alors, vous n'êtes pas sur les racines du mal, donc vous êtes après.
Non, mais si, ça, c'est le côté augustinien, parce que c'est un augustinien, Dantec. C'est ça qui est intéressant. Donc, les racines du mal, ça dit bien le projet, mais ça ne dit pas encore la réalité de l'incarnation du projet. Donc, c'est encore une fiction. Alors, si on veut écouter un peu la voix de Dantec, il y a Périphérique chez Flammarion, c'est un recueil de textes. Et puis, c'est surtout ça, quoi, le théâtre des opérations, ce qui dit bien la nature du propos. C'est-à-dire qu'on est en guerre, on est à Maquisard. Je cite Dantec, la littérature est certes le produit d'une guerre menée par le cerveau d'un individu contre l'état du monde, mais en aucun cas ce cerveau, cette littérature, n'est coupé du reste de l'humanité. Donc, littérature maquisarde, franc-tireur, le type est tout seul, il fait des gros livres, tout seul avec ses drogues, comme on est dans une espèce de bunker psychique. Et donc, moi, c'est plutôt le théâtre des opérations, laboratoire de catastrophe générale. Ce qui est important, c'est pas catastrophe, c'est laboratoire. C'est-à-dire que c'est quand même quelqu'un qui a toujours cherché un peu comme on cherche l'inscription sur le fond du golem, quelle était la formule du chaos. L'idée, c'est que le chaos a bien une formule. Il y a bien quelque chose derrière tout ça. Il y a bien une racine au mal. Alors, il faut toucher la racine du mal. Et puis, je recommande, bien sûr, Les Résidents, qui est son dernier roman, qui était une espèce de ce que j'avais appelé dans un article, un objet linguistique non catalogable. C'était, il y a tout.
C'est à cette occasion qu'on l'entendait dans Les Bonnes Feuilles.
Voilà, c'est ça. Il y a de tout, de la fiction, il y a de l'essai, il y a de la prophétie.
Justement, oui, de voilà. Plus en plus, c'est alors entre les deux, il y a quand même un moment très difficile pour Dantec quand même, où comme vous l'avez dit, il est en guerre même contre lui-même, ce qu'il n'arrive pas à écrire. Il se fait virer à peu près de chez tous les éditeurs parisiens, d'abord Gallimard, puis Albin Michel, puis Rigage. À chaque fois, on essaye de le faire écrire et il y a rien qui en sort. Finalement, il devient assez ingérable et il se réfugie chez l'un de ses amis, Raphaël Sorin, qu'il accueille en 2011 dans une toute petite maison d'édition, les éditions du Ring, collaboration qui va très vite très mal tourné, puisque Maurice Dantec fait même interdire le livre qui est issu de cette collaboration. Raphaël Sorin, encore aujourd'hui, en garde un souvenir assez amer.
Moi, je crois qu'il était attaqué, je l'avais toujours défendu. J'avais toujours estimé que ce qu'il tentait de faire, cette espèce de mixte entre la science-fiction et le polar, il était le seul en France à le réussir. Donc, on était proches, on était amis, et ça commençait à se détériorer par sa faute, parce que là, il a été accueilli de manière tout à fait princière, sinon royale. Il a commencé à avoir des bouffées de paranoïa, et à se mettre à détester tout le monde, y compris moi-même. Et il était, on peut dire, suicidaire et autodestructeur. Au moment où le livre allait sortir, il a fait une tentative absolument suicidaire, qui était d'interdire la sortie du livre. Le livre est quand même sorti, mais dans des conditions effarantes, puisqu'on était avec un auteur qui était contre son livre, qui faisait tout pour le détruire. Donc ça, c'est Dantec. J'en ai publié d'autres, des écrivains paradoxaux. J'ai pu quand même publier Houellebecq pendant 10 ans, donc ça ne fait pas peur. Mais là, je trouve qu'il était allé un petit peu trop loin. Je ne vais pas faire son éloge funèbre, je suis pas là pour ça. Mais c'est un rendez-vous manqué avec la littérature, puisqu'à un moment donné, il a perdu complètement les pédales, et pas seulement du point de vue psychique, mais aussi du point de vue littéraire. Et c'est malheureux, parce qu'il avait quand même créé quelque chose qui était assez unique en France, qui était vision à la fois paranoïaque et critique de la société. Et je crois qu'avec le recul, il fait partie des écrivains de polar qui est le plus intéressant.
Voilà, il faut quand même dire effectivement que Dantec a réussi à publier une dernière fois avec son ami Jérôme Schmitt. C'était donc Les Résidents, paru en 2014 aux éditions Inculte. François Angelier.
Oui, absolument. Il y a des phrases comme ça. Le grand comment, avec un C majuscule, arrive, il est juste derrière la porte. Et puis il y a cette phrase aussi. Il parle vraiment du laboratoire des derniers instants. C'est un peu ça, la perspective de Dantec, perspective visionnaire, millénariste, d'avoir toujours un coup d'avance et d'être toujours un peu déjà dans le ravin avant qu'on freine, quoi.
Je vous conseille d'écouter d'ailleurs le disque qu'il a fait avec Richard Pinas sur la pensée nomade.
Ping-pong.
C'est déjà fini. Et c'est bien triste, le ping-pong reprend demain. Nouvelle partie cosmogonique, a priori, puisqu'il s'agira de science-fiction au cinéma.
Avec Cosmodrama.
Et aussi...
Milik Ohanian pour ses œuvres d'art inspirées par la NASA. Mais tout de suite, sur France Culture, vous avez rendez-vous avec Denis Podalydès de la Comédie Française.